Session du Père Marie-Dominique Philippe. Session de théologie naturelle par le Père Marie-Dominique Philippe Arimon. Le 26 mai 1995, quatrième conférence.
bêtise. C'est un abîme. Hein. Mais quand même, on le touche quand même assez bien quand même. Non. Quand on touche le fond de la bêtise, on va en sortir. Alors on donne un coup violent du talon pour réapparaître. Oui. C'est pour ça que, au point de vue philosophique, nous essayons de voir ce problème de Dieu face à l'intelligence de l'homme. Et ceci, vous voyez, Vatican II l'a réclamé. L'ouverture au monde athée. Il ne faut pas qu'un chrétien ait peur de parler à un athée. Or, ça arrive très souvent, les chrétiens disent, on n'ose pas, on va se faire battre. C'est lui qui aura raison. Alors qu'on devrait dire, mais non, nous avons la foi. Et notre foi éveille notre intelligence. Elle réveille notre intelligence. Notre foi nous permet d'être plus vite intelligents. Mais notre foi respecte pleinement ce que notre intelligence doit découvrir par elle-même. Notre foi respecte ça pleinement et il faut le respecter parfaitement. Il faut respecter que la sagesse philosophique est une sagesse. Il faut respecter que la sagesse théologique est une autre sagesse parce qu'elle part de la foi. Et il faut respecter cette sagesse des saints, la sagesse mystique. C'est saint Thomas qui nous dit ces trois sagesses. Et quand j'ai expliqué ça une fois à Marthe, la petite Marthe Robin, elle m'a dit, mais c'est merveilleux, pourquoi on ne nous dit pas ça? Parce que ça met tout en ordre. J'entends encore cette petite fermière, ça met tout en ordre, parce qu'on voit mieux. Et c'est très vrai, vous voyez. Les chrétiens ne sont pas assez intelligents, la plupart du temps. Alors, ça met en boule ceux qui n'ont pas la foi et qui cherchent. Alors, je donne le petit exemple très simple. Vous voyez, quand on est en face de certains points que l'Église condamne, on répond la plupart du temps comme chrétien, alors qu'on a affaire à des hommes qui ne sont quelquefois plus chrétiens. L'avortement. On devrait donner, en face de l'avortement, des raisons qui sont valables pour l'homme et des raisons qui sont valables pour le chrétien. Les raisons valables pour le chrétien valent toujours pour le chrétien. Les raisons valables pour l'homme valent toujours pour le chrétien. Mais les raisons du chrétien ne valent pas pour celui qui n'est pas chrétien. Et donc, c'est une miséricorde de faire de la philosophie aujourd'hui pour respecter tous ceux qui ne croient plus et qui veulent rester des hommes. Et qui ont sûrement un désir de rester des hommes, mais qui n'entendent quelquefois qu'un son de cloche. Alors évidemment, vous avez des athées qui vraiment veulent que tout le monde rejette Dieu. C'est sûr, des athées militants. Mais il ne faut pas avoir peur de dialoguer avec eux et de venir au problème de l'athéisme proprement dit. Parce que c'est quand même le grand problème qui reste. Il ne faut pas dire du tout le marxisme est terminé. C'est faux de dire ça. C'est faux. Lénine lui-même a dit il faut que le marxisme évolue dans le sens des progrès de la science. Donc, si on est un bon marxiste, on évolue sur le progrès de la science. Et par le fait même, c'est normal qu'on supprime une forme de marxisme, comme le communisme, et qu'on essaie de s'adapter à une autre forme de marxisme. Mais c'est toujours m'intéresse le philosophe, vous voyez. Je m'intéresse plus à l'idéologie athée de Marx qu'au communisme. Parce que le communisme, c'est une application. Tandis que l'idéologie athée, c'est l'esprit humain qui est contaminé par une idéologie. Et ça, je crois que c'est très important de comprendre que nous vivons après ce grand tournant de la pensée humaine, qui est cette grande vague d'idéologie athée. Et je crois qu'on n'a pas le droit de dire c'est passé. C'est pas passé du tout, c'est actuel. Et le fruit de cette grande vague d'idéologie athée, c'est la laïcité au plan politique. Une laïcité qui fait qu'on n'a plus le droit de parler de Dieu. Que c'est aller contre la liberté que de parler de Dieu. Alors qu'il faut pouvoir montrer que l'homme naturellement a besoin de Dieu et que l'homme naturellement peut découvrir Dieu. Et donc c'est un manque d'intelligence que d'être athée. Il faut pouvoir le dire poliment. Oui, bien. Je vous donne ce petit exemple que j'ai déjà donné plus d'une fois mais qui m'a beaucoup frappé. C'était à Fribourg. Je ne savais pas quels étaient les étudiants que j'avais devant moi. Parce qu'il y en avait que je ne voyais jamais, donc je ne savais pas courir après pour savoir qui ils étaient. Mais on les rattrapait au moment d'examen. Et comme j'avais cette partie, la position du philosophe en face du problème de Dieu, je touchais forcément la question de l'athéisme moderne, qui m'intéresse beaucoup du reste. Parce que ça fait comprendre la mentalité des hommes modernes, de beaucoup d'hommes modernes, de beaucoup, plus qu'on ne pense. Alors, au moment des examens, deux jeunes filles allemandes viennent me dire, mon père, nous devons passer l'examen avec vous sur le problème de Dieu, et nous sommes athées. Alors, est-ce que, par définition, vous allez dire que notre examen est nul? J'ai dit non, pas du tout. Je vous demande à l'examen d'être intelligente. Si vous êtes athée, mais vous me direz les raisons de votre athéisme. Et je vous demande de savoir dire l'intelligence qu'il y a dans la recherche philosophique de l'existence de Dieu. Et de savoir montrer que certaines voies d'accès sur le mystère de Dieu, à la manière de Descartes, sont fausses, sont pas vraies. Pourquoi elles sont fausses? Là, elles sont parties toutes contentes, bon, très bien. L'examen, en effet, avec elles, vous comprenez que je les soignais particulièrement. Mais amicalement, pas du tout, en opposition. Amicalement, pour qu'elles soient. Mais c'est un très bon examen. Au moment de la licence, on choisit, on n'est pas obligé de prendre tous les examens. Heureusement, on choisit telle ou telle branche. Et ces deux ont choisi la branche du problème de l'existence de Dieu. Au moment de la licence. Alors elles m'ont dit, ça vous étonne que nous choisissons cela? Je dis, pas du tout. Ça prouve que vous avez compris que c'est un problème très important pour l'homme. Alors, passez l'examen. Après l'examen, il était bon. Elles avaient travaillé, problème, elles savaient bien et elles raisonnaient bien. Après l'examen, elles m'ont dit, est-ce que maintenant on peut parler avec vous en dehors de l'examen? Je suis très volontiers. L'examen est terminé, je vous mets votre note, maintenant je vous parle ensemble. Alors, elles m'ont dit, le cours qui nous a le plus intéressé, c'est celui-là. Et nous retournons en Allemagne. Et nous retrouvons tout notre groupe d'étudiants athées. Et nous leur dirons, c'est pas si commode que ça d'être athée. D'une manière, non pas affective, mais d'une manière intelligente. poserons des questions pour voir si elles sont hâtées d'une façon intelligente. Et croyez bien que nous-mêmes, nous nous reposons le problème. Mais la plupart du temps, on est devant des gens, quand on veut discuter, des chrétiens, quand on veut discuter avec eux, ils disent « Mais quoi, c'est évident que tu existes !» Alors, on n'est pas pour moi. Alors j'ai dit « Vous avez bien vu que je vous ai jamais dit que l'existence de Dieu était une évidence de notre propre expérience, qu'il fallait réfléchir pour dire que Dieu existe et que c'est le fruit d'une réflexion qui nous permet de dire que Dieu existe. C'est pas une évidence. Venez, le psaume dit incipiens dixit Deus non est. Incipiens. Alors traduisez ça élégamment. L'insensé, l'idiot, c'est moins élégant, n'est-ce pas ? Celui qui ne réfléchit pas. Je peux dire ça devant des chrétiens, puisque c'est le psaume. Je ne peux pas dire ça devant des hommes qui ont travaillé le problème et qui concluent qu'ils sont athées. Il faut chercher pourquoi. Je crois qu'en effet, toutes les positions athées impliquent un a priori affectif. Je crois. Et c'est pour ça que ces étudiantes allemandes m'avaient beaucoup intéressé. Parce qu'au fond, elles étaient d'accord là-dessus. Et quand on voit des savants qui sont de vrais savants et qui se sont posé le problème de l'existence de Dieu, ils disent « on n'arrive pas, c'est difficile, mais on comprend qu'il y a un problème ». Alors, ils disent presque toujours, il y a tout le point de vue affectif qui joue. Si Dieu existe, il faut changer de vie. C'est vrai. Parce qu'on le verra. On se retrouvera en face de lui. Donc, il faut changer de vie. Si Dieu n'existe pas, nous sommes les maîtres. C'est vrai. Puisque notre voisin n'a rien à voir dans notre plate-bande, qui nous laisse tranquille. Alors, vous voyez, c'est très vrai qu'il y a un a priori affectif. Le biologiste Rostand disait, parce que il avait épousé une catholique, et ses enfants étaient catholiques, ses fils qui étaient grands. Connue. Et il venait au petit cours sur Saint Thomas que je donnais à ce moment-là à Paris. Et lui-même disait à qui voulait l'entendre, c'est dans mon salon le dimanche après-midi qu'on parle le plus de Dieu. Savoir s'il existe ou s'il n'existe pas. Et le grand obstacle pour lui, c'était la souffrance des animaux et la souffrance des hommes. C'est la raison propre que Thomas d'Aquin dit qui est l'obstacle le plus grand pour montrer l'existence de Dieu. Si Dieu existe, il est infiniment bon. Comment peut-il tolérer un tel carnage ? On comprend très bien ça. C'est intéressant, vous voyez, de voir que c'est actuel. Faut pas voir que ça vieillit, ce problème-là. C'est le problème qui vieillit le moins. Parce que Dieu est éternel. Donc ça ne vieillit pas du tout. Et nous devons tous être capables, dans le monde d'aujourd'hui, si on est catholique, on doit tous être capables de voir cela. Le Concile Vatican I, l'intelligence humaine est capable par elle-même de découvrir l'existence de Dieu. Et si l'intelligence est capable par elle-même de découvrir l'existence de Dieu, nous devons tous faire l'effort énorme pour qu'un être, au point de vue scientifique, au point de vue biologique, ce qu'est l'homme et la complexité de l'homme. Et c'est bien, et c'est beau, et c'est grand. Et puis, on néglige le principal. Alors, c'est très bien, la foi supplée, je suis tout à fait d'accord, la foi supplée. Mais la foi ne supplée pas quand il s'agit d'être témoin de la vérité. Et à ce moment-là, on doit chercher. Et en même temps, si notre intelligence cherche la vérité, notre intelligence verra tout de suite les erreurs de certains théologiens. Or, aujourd'hui, on sait très bien, les théologiens peuvent écrire. Je dis pas ce qu'ils veulent. Mais presque. Alors, beaucoup de chrétiens risquent de se laisser prendre à ce poison qui, quelquefois, est à l'intérieur de certaines théories. Et petit à petit, la foi elle-même disparaît. Parce que notre foi est reçue dans notre intelligence. Et chaque fois que je fais un acte de foi, je fais un acte d'intelligence. Alors si mon intelligence est complètement faussée par une idéologie athée, mon acte de foi devient très difficile. Parce qu'il est en opposition avec l'inclination de mon intelligence. Si mon intelligence cherche la vérité, alors l'acte de foi vient achever cette recherche. Et tout l'effort que j'ai de recherche de la vérité permet à mon acte de foi d'aller plus loin. C'est-à-dire de s'appliquer davantage à toute ma vie. Et c'est pour ça que nous faisons cette étude. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important de maintenir une étude philosophique, métaphysique sur Dieu. Bon, ceci, c'est un rappel pour que vous voyez mieux la finalité de notre recherche. Et alors, soyons honnêtes, et c'est pour ça que je rappelle ce problème dans toute son extension, parce que c'est important de voir qu'au fond, tous les philosophes, jusqu'à ce moment très important dans l'histoire de l'humanité, étaient des sages et des amis de la sagesse et cherchaient comment on pouvait affirmer l'existence de Dieu. Ils l'ont fait plus ou moins bien, ils l'ont fait quelquefois très mal, en devenant des apologètes. Tout le courant d'Occam, tout le courant de Descartes, courant des gueules. Ils le font mal. Mais ils recherchent quand même Dieu. Ils ne le nient pas du tout. Ils recherchent Dieu. Il y a une sonnette d'alarme qui commence au point de vue philosophique avec ce grand courant au 19e siècle, donc notre siècle précédent, et qui aboutit jusque dans notre siècle. Près 150 ans, il y a 150 ans d'une idéologie athée qui naissent. Alors on doit les regarder au plan proprement philosophique. C'est ce que je vais faire avec vous rapidement, je m'excuse parce que ce serait très intéressant. J'aurais intitulé alors cette session les idéologies athées. Il faudrait presque le faire, ça vaudrait la peine. Alors ici toujours je fais un regard, une vision aérienne rapide, pour qu'il y ait quelque chose qui reste dans votre esprit. Alors, je tiens à dire qu'au point de vue de l'histoire de la pensée humaine, c'est un phénomène tout à fait nouveau et qui est caractéristique de notre philosophie européenne qui a débordé en Amérique, aux États-Unis. Mais elle est romance, elle n'existe pas dans l'Inde. C'est la contamination. Je dis contamination en sens que c'est un virus. Parce que quand on ne sait pas ce que c'est, on dit que c'est un virus. Alors, c'est une contamination. Mais c'est important de voir cela. Alors après, il y a un regard chrétien là-dessus. Je vous le donnerai ce soir. Je ne le fais pas maintenant pour ne pas tout brouiller. On reste au plan philosophique. Alors, au plan philosophique, je vous rappelle quelques aspects qui me semblent particulièrement importants. Le positivisme d'Auguste Comte, c'est très gros, mais ça existait. Et ça s'est affiné progressivement. Mais il demeure, je crois, le plus grand obstacle scientifique. C'est une manière d'envisager la science. C'est une manière humaine de regarder le progrès de la science et d'idéaliser la science et de faire de la science un idole. Et de considérer que tout ce qui est en dehors de la science doit disparaître. Ce que mon filet prend, je l'appelle poisson. Ce que mon filet scientifique prend, c'est humain. En dehors de là, il n'y a rien. Alors, Auguste Comte, voyez, je vous donne les dates, c'est intéressant, du reste, comme 1798, 1857, oui, au milieu du siècle précédent. Ensuite, nous verrons 1804, 1872, puis Marx, le capitalisme, vous le connaissez, tu vois, tout le monde connaît Marx, 1818, 1883, Nietzsche, 1844, 1900, Freud, 1856, 1900. Toute vision sur l'homme comme telle est philosophique. Elle cache une philosophie. L'athéisme est philosophique et n'est pas scientifique. N'identifiez pas les deux. La science est bonne quand elle cherche la vérité, quand elle la respecte et quand elle sait les limites de sa connaissance. Mais les idéologies athées ont quelque chose de très particulier. C'est ce que nous allons essayer de comprendre progressivement. Alors, un chic que vous ne connaissez sûrement pas, du moins un peu, 1869, 1948, je crois. Sartre, là, tout à fait notre siècle, hein. 1905, 1980. Et puis, il y a, juste après Brunswick, j'ai oublié, William Huxley. Il y a eu une importance, c'est la position d'un évolutionnisme parfait, 1887-1975. Alors, je vais vite regarder avec vous ces différentes formes, hein, vous inquiétez pas. Rapidement, alors, ce qui nous intéresse au point de vue philosophique, c'est de voir que tous ces athéismes sont des revendications. C'est là le côté affectif. La revendication n'est pas philosophique. La revendication est la suite d'un scandale. Le scandale en soi n'est pas mauvais. Tout dépend ce que vous en faites. On est scandalisé dans des quantités de choses, que voulez-vous. Et c'est bon d'être scandalisé. Celui qui n'est jamais scandalisé, il lui manque quelque chose. l'intention, c'est rétablir, soi-disant, un ordre plus parfait. Oui. Et donc, les idéologies athées, toutes impliquent une sorte de revendication. C'est très curieux. De l'homme par rapport à une soumission à un être qu'on ne connaît pas. C'est une revendication vis-à-vis de cela. Voyez, il y a quelque chose d'analogue avec Descartes. Descartes, c'était la revendication de l'intelligence, de la raison, de l'entendement face aux théologiens. Cette revendication s'est transformée en une revendication de vie par rapport à l'homme. Alors, Auguste Comte, c'est le premier. Je vous lis quelques petits passages. Pour Auguste Comte, l'athéisme ne constitue qu'une émancipation insuffisante qui doit être dépassée. Il correspond encore, comme le théisme, à l'état métaphysique. Donc, pour Auguste Comte, théisme, athéisme, ce sont deux contraires. Métaphysique. Puisque le théisme implique une vision métaphysique de l'être. L'athéisme implique une vision métaphysique de l'être. C'est intéressant à noter cela. Ce qu'il faut, c'est dépasser l'athéisme comme le théisme. L'esprit positiviste substitue partout à l'absolu le relatif. À la recherche du pourquoi, c'est celle du comment. Et ça, c'est Auguste Comte qui le dit directement. Il n'est pas bête, il a saisi que le pourquoi conduisait à Dieu. Et que le comment, on reste dans le point de vue humain. La zone du comment, c'est l'homme. Entrer dans le pourquoi, c'est aller vers Dieu. Et pour Auguste Comte, alors il y a des passages savoureux, mais je n'ai pas le temps de les lire avec vous. Il faut lire de temps en temps d'Auguste Comte. C'est intéressant, parce qu'on voit que tout était en germe. Et puis c'est dit avec une naïveté, une prodigieuse. C'est extraordinaire. La métaphysique, c'est l'âge de l'enfant. C'est l'âge de l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore de l'admiration. On est devant la réalité qu'on ne connaît pas. Alors on est dans l'admiration. Et alors, c'est le pourquoi de l'enfant. Et c'est vrai, un enfant, il pose toujours les pourquoi. Je me souviens, la première fois qu'il y a eu un TGV en gare du Creusot. Une mère et un petit gosse à côté, j'ai entendu parce que c'était tellement, tout le monde regardait, tu vois. Et le petit gosse dit, mais maman, qu'est-ce que c'est? Maman, qu'est-ce que c'est? Alors la mère, elle répond, TGV. Vous comprenez que pour l'enfant, c'était lumineux. Et l'enfant dit, mais TGV, qu'est-ce que c'est? Oh, tais-toi, voilà le train qui arrive. L'enfant pose des pourquoi, et souvent, on ne sait pas les expliquer. On fait des refoulements intellectuels. Alors on croit que poser des pourquoi, c'est bête. Et Auguste Comte a considéré que poser des pourquoi, c'était l'enfant. L'âge parfait, c'est le positivisme, c'est tout expliqué. Le comment. On reconstruit le monde. On l'explique pas, on le reconstruit. On reconstruit tout. Nous sommes ici en présence d'un athéisme sûr de lui qui se veut adulte. Donc qui n'est plus en dépendance. l'émanation totale de Dieu constitue le point de départ nécessaire à l'instauration de cette religion de l'humanité. Vous voyez, il y a encore une certaine finalité dans ce positivisme. C'est la religion de l'humanité. Alors il le dit textuellement. Il faut servir l'homme. Toute la charité, c'est servir l'homme. On a dit que c'était Dieu. Non, non, c'est l'homme. Donc tout est retourné. La vapeur est retournée dans le sens de l'homme. Et on veut exalter l'humanité. On veut exalter l'homme. Si l'intention d'Auguste Comte est de dépasser l'opposition théisme et athéisme, peut-on dire que l'esprit positiviste qu'il veut instaurer soit vraiment un au-delà de cette opposition? Cet esprit positiviste n'est-il pas en réalité une critique constante de la découverte d'un absolu qui s'imposerait immédiatement à notre intelligence? N'y a-t-il pas dans la pensée d'Auguste Comte une confusion entre métaphysique et ontologisme? Alors là, je suis obligé d'expliquer un instant. L'ontologisme, c'est Descartes. C'est de croire que tout ce qu'on pense est réel. C'est de croire que le réel égale les conclusions scientifiques. Les conclusions scientifiques donnent quelque chose du réel, mais pas le réel complet. Vous comprenez bien? Quelque chose du réel. Le réel complet pour nous, c'est l'homme. Et dans l'homme, il n'y a pas que le corps. Il y a une âme spirituelle. Alors ça, on le rêve complètement. C'est l'enfant qui croit qu'il y a une âme spirituelle. Et par l'âme spirituelle, on croit qu'il y a un Dieu. Non. La conclusion scientifique et les connaissances scientifiques s'identifient au réel. C'est ça l'ontologisme. Et l'ontologisme est né à partir de Descartes, est né à partir de Occam. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à voir. C'est que cette erreur de l'ontologisme, qui est parfaite avec Hegel, puisque la connaissance, c'est Dieu. La connaissance de moi-même aboutit à dire que c'est Dieu. Je suis Dieu. Ma connaissance a quelque chose d'infini, donc je suis infini. Alors cet ontologisme de droite, hegelien, fait que on aboutit à affirmer que ce qu'il y a de plus intime en nous, c'est Dieu. Alors l'opposition violente, c'est-à-dire pas du tout. La science comme telle ne nous parle que du comment. Et on n'a jamais atteint Dieu par la science. Et donc Dieu n'existe pas. N'existe que ce que la science atteint. Alors il y a un ontologisme métaphysique, Descartes. Il y a un ontologisme scientifique, Auguste Comte. Un ontologisme de droite, un ontologisme de gauche. Ce qui montre très bien, vous voyez, qu'il ne s'agit pas de connaissances objectives, mais d'un aspect subjectif. La droite et la gauche. Quelquefois, la droite et la gauche affirment la même chose, mais comme ils sont situés dans des positions totalement différentes, on dit la droite et la gauche, et tous les gens de droite votent pour la droite, sans savoir si c'est pas le contenu de la gauche. C'est curieux, mais c'est comme ça. Mais ça, c'est l'ontologisme. C'est important de saisir ça. Que Auguste Comte, c'est vraiment cette fureur de supprimer tout absolu. un sens de l'absolu et devient fanatique. Supprimez complètement le fanatisme. Faites que tout le monde soit de bons petits bourgeois, contents de ce qu'ils ont, et pas plus. Religion de l'humanité. Alors, Feuerbach, c'est beaucoup plus délicat. J'ai pas tellement envie d'entrer dedans, parce que je crains que ça nous conduirait vers quelque chose de... Mais Feuerbach est capital pour saisir ce que représente le véritable, les véritables idéologies belliqueuses. Vous voyez, parce que Auguste Comte, c'est le brave homme. C'est le brave homme. On est tous des hommes, on doit s'aimer, quoi. Et faisons la vraie religion entre hommes, tu vois. C'est la dînette religieuse, vous voyez, avec sa liturgie. Alors, il y a une liturgie. Il y a une église encore à Paris, vous savez. Elle est toujours fermée. Une église positiviste. Chaque fois que je passe devant, je regarde et c'est fermé, mais ça m'intéresserait d'entrer dedans. Voir qu'est-ce qu'il y a. Peut-être que le grand prêtre demeure. Alors, c'est dans l'essence du christianisme de Feuerbach qu'il entend présenter les éléments critiques d'une philosophie de la religion. Alors, voyez, il va beaucoup plus loin. La religion comme telle est néfaste, puisqu'elle s'adresse à un absolu. Alors c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que ces différentes formes d'athéisme s'opposent les unes aux autres. En même temps que les principes d'une nouvelle philosophie humaine engendrée à partir de la nouvelle religion, alors que la philosophie spéculative de la religion, celle de Hegel, sacrifie la religion à la philosophie en érigeant les images de la religion en ses propres pensées, donc les mythes qui s'identifient avec ses pensées. Il est très anti-Hegel, puisque c'est, d'une certaine manière, l'opposition la plus violente. L'ouvrage fondamental de Hegel, c'est la philosophie de la religion. Et on comprend. Pour lui, il faut table rase tout ça. Et ce qui est curieux dans Feuerbach, et je crois que c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, ce qui est intéressant dans Feuerbach, c'est que de fait, il considère que dans l'homme, cette soif d'infini qui lui a permis de poser Dieu, c'est la mauvaise conscience de l'homme qui pose Dieu, mais qu'en réalité, tout ce qu'on attribue à Dieu, on doit l'attribuer à l'homme. C'est ça, la grande découverte de Feuerbach, c'est-à-dire son intuition dominante. Vous voyez, tous les attributs de Dieu, et Feuerbach les connaît, et son livre, l'essence du christianisme, est un livre qu'il faut lire si on veut comprendre la dialectique. Parce qu'elle est à l'origine de tout cela. Et elle nous montre bien comment on veut montrer que tout ce qui est attribué à Dieu, en réalité, doit être attribué à l'homme. Puisque tout ce qu'on attribue à Dieu, on l'attribue à un inconnu. À un X, inconnu. Tandis que si on l'attribue à l'homme, on l'attribue à quelqu'un qu'on connaît. Alors tout devient beaucoup plus vrai.
de théologie naturelle par le père Marie-Dominique Philippe Arimon, le 26 mai 1995, cinquième conférence.
Fiorbar veut être seulement l'interprète de la religion, l'herméneute de la religion. Ce n'est pas moi, dit-il, mais la religion elle-même qui adore l'homme. Ça, c'est sa grande phrase. C'est une phrase qu'il faut tenir, ça. Ce n'est pas moi, dit-il, mais la religion elle-même qui adore l'homme. Donc c'est un renversement complet de la vapeur. C'est la religion elle-même qui dit Dieu est homme, l'homme est Dieu. C'est elle qui rejette le Dieu, qui est seulement un être de pensée, les gueules, et qui oblige Dieu à se transformer en homme. En le proclamant, Freud ne fait que révéler le secret de la théologie, c'est lui qui dit ça, le secret de la théologie, qui est l'anthropologie. Alors vous voyez, c'est ça qui est très curieux, c'est intéressant de voir ça. Alors quand vous voyez que un grand théologien dit la théologie moderne, c'est à la place de la métaphysique, l'anthropologie. C'est quand même curieux, hein, cette parenté, c'est pas ce que je veux dire. La goutte d'eau qui descend sur le dos du théologien. Il faut être moderne. Il faut être de son temps. Alors de son temps, c'est ça. En vue. Bon, alors oui. Feuerbach ne fait que révéler le secret de la théologie, qui est l'anthropologie, et le secret de la religion chrétienne, qui n'est autre que l'athéisme. Entendu comme restitution à l'homme des prédicats divins. Tous les attributs qui sont attribués à Dieu. Le traité du De Deo No de saint Thomas, le traité sur Dieu de saint Thomas, où saint Thomas voit tous les attributs de Dieu. En réalité, à la place de mettre Dieu, il faut mettre l'homme. En vue de révéler la véritable essence de la religion, Feuerbach commence donc par montrer qu'il n'y a pas de différence entre les prédicats, donc les attributs, de l'être divin et ceux de l'être humain, et que par le fait même, il n'y a pas non plus de différence entre leur sujet, l'être de Dieu, et celui de l'homme. La religion repose sur la conscience au sens strict, qui est conscience de l'infini. L'être conscient ayant pour objet l'infinité de sa propre essence. Il y a en nous quelque chose d'infini, puisque le progrès de la science n'est pas limité. Donc on peut aller tout le temps plus loin. Si le progrès de la science n'est pas limité, ça prouve que mon intelligence a quelque chose d'infini. Que mon esprit a quelque chose d'infini. Si mon esprit a quelque chose d'infini, l'infini que j'attribue à Dieu, c'est tout simplement quelque chose de moi que j'attribue à Dieu. Et fais ça pour tout, tous les attributs de Dieu. Alors c'est ça qu'il faut, je crois, saisir. La religion repose sur la conscience au sens strict, qui est conscience de l'infini. C'est l'infini qui est le métaxu, qui est donc le levier de commande qui permet de renverser la vapeur. Feuerbach ramène l'être de l'homme à sa conscience, et à la conscience de sa pensée, et à la conscience de son vouloir, c'est-à-dire à la conscience de ce qu'il est, de sa propre essence, et la conscience de soi, de l'homme, et la conscience religieuse, la conscience de Dieu. Et la conscience religieuse, c'est la conscience de Dieu. La connaissance de Dieu et celle de l'homme s'identifient. Ce que Dieu est pour l'homme, c'est son esprit, son âme, son cœur. C'est cela son Dieu. Dieu est l'intériorité manifeste, le soi exprimé de l'homme. La religion est le solennel, je cite, hein, c'est de lui ça. La religion est le solennel dévoilement. Donc la religion est le solennel dévoilement des trésors cachés de l'homme. imagination enfantile. En réalité, le concept de divinité ne fait qu'un avec le concept d'humanité. Ceci cité. Donc, l'intelligence que vous avez de l'homme, c'est l'intelligence que vous avez de Dieu. Et c'est comme ce vieux grec qui disait, si les éléphants voulaient parler de Dieu, ils parleraient d'un super éléphant. Bien ça, c'est Feuerbach, redit la même chose, voyez. C'est quand même très curieux aussi. Ceci, je crois, 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, je n'ajoute pas plus. Je crois qu'il faut voir cette espèce d'exaltation de l'homme qu'on voit chez Feuerbach, puisqu'il en fait un dieu. Et Dieu n'est pas autre chose que cette conscience de l'homme mûr, adulte, qui n'est plus dans l'infantilité, qui est au-delà de l'infantilité, et qui demeure, j'allais dire, pour lui-même et dans sa propre exigence particulière. Sur Nietzsche, la théorie classique, dire Nietzsche est mort athée, ni en Dieu, et l'autre théorie qui dit que Nietzsche est un grand mystique. Je ne crois pas qu'on puisse aller jusque-là, mais qu'il ait eu une nostalgie profonde de Dieu, ça je crois. Le jeune Nietzsche, 18 ans, écrivait des psaumes. Et de beaux psaumes. Prière à Dieu. C'est le drame, le tragique, qui est au cœur de la philosophie de Nietzsche. Et comme un artiste, c'est le drame. Zarathoustra, pas. Un petit détail pour vous montrer, n'est-ce pas? Vous savez que Nietzsche aimait beaucoup Sils Maria dans la Haute Engadine. Et on voit encore l'autel où Nietzsche, c'est pas vieux, vous l'avez vu, au début du siècle, où Nietzsche ça descendait quand il venait à Sils Maria. Un très beau lieu de la Haute Engadine, n'est-ce pas? J'étais arrivé à Fribourg, j'avais demandé à un dominicain suisse que je connaissais bien et que j'aimais beaucoup. On avait fait notre noviciat ensemble. J'avais demandé quel était le plus beau lieu de la Suisse. Elle a dit tout de suite, la Haute Engadine, Sils Maria. Alors j'ai dit à quel moment? L'été. Différent l'été. différent l'automne, différent chaque fois, c'est utique. Alors, j'y étais aux diverses saisons, et c'était vrai, c'est utique. En mémoire de Nietzsche. Alors, on m'a raconté cette petite histoire là-bas, et je crois que c'est, ça fait partie des petites traditions. Nietzsche venait là, et là, il composait. Comment parler ça à tous trois? Complètement stupide, vous voyez ce que je veux dire, mais en même temps dramatique. c'est que le mythe que le poète crée, c'est la réalité. Et le créateur, Dieu créateur, c'est le créateur des réalités existantes. Le poète crée des symboles, des relations, une harmonie nouvelle. Mais il ne crée pas l'homme, il ne crée pas l'artiste. Et pour Nietzsche, les deux se tiennent. Et c'est ça le drame. Oui, c'est pour ça que dans toutes ces idéologies athées, il y a l'ontologisme, c'est-à-dire l'identification de la pensée et du réel. On le retrouve sous toutes ses formes. Freud, j'allais dire, c'est diamétralement opposé. C'est très curieux que Nietzsche corrige Freud et Freud corrige Nietzsche. C'est très curieux. Parce que c'est une exaltation prodigieuse de la créativité chez Nietzsche. C'est la créativité, c'est l'homme qui, dans sa grandeur et dans sa puissance, la volonté de puissance, doit dominer. Chez Freud, c'est pas étonnant. Dans le déclin de la civilisation, donc distinguons bien Freud, médecin, et la méthode freudienne, psychanalyste. Quand il était à Sainte-Anne, à Paris, et qu'il guérissait, du moins qu'il essayait de guérir, où il n'y avait à ce moment-là que des moyens très violents, il a été écœuré de ça. Alors il a essayé d'entrer en contact avec les malades. Et c'est là, c'est quelque chose de très beau chez lui. Vous voyez, quand on naît dans un asile de gens qui, auxquels il n'y a plus de contact humain, il répète constamment certains mots. Et ça, ça a frappé Freud. Et Freud s'est mis à noter ça. Les mots que tel malade disait. Et quand il revenait le lendemain, il prenait ses mots pour éveiller le contact. Et c'est quelqu'un qui était très freudienne dans sa méthode psychanalytique, qui a beaucoup travaillé Freud comme médecin et qui m'a raconté ces choses-là. Je crois que c'est très juste. C'est tout à fait cela. C'est le contact. Descendre. C'est comme ça que ce médecin définissait la psychanalyse. Il faut être scaphandrier. On descend dans les abîmes imaginatifs. On descend dans l'inconscient. Alors le danger, c'est de considérer que cet inconscient, c'est le réel. C'est un réel, mais ce n'est pas le réel. C'est l'imaginatif qu'on reconstruit. Alors, dans le déclin de la civilisation, c'est là qu'on voit la conception de l'homme de Freud. Il y a des passages très curieux, là aussi. C'est important de voir comment tout est ramené à un point premier. Le refoulement premier des types, le complexe type. On essaie de tout expliquer, vous voyez, par cette recherche du premier comme Nietzsche. C'est pour ça que toutes ces idéologies athées mettent en lumière un aspect de l'homme. Comment l'imaginaire peut arriver à prendre possession totale de l'homme. Et c'est vrai. Il y a très peu de traités philosophiques sur l'imagination. Très peu. Le premier traité, ça a été Aristote. universel. Oh, ils discutent sur la possibilité de dire que Dieu est une équation différentielle. Mais lui, il le dit de cette manière-là. Dieu, c'est la pensée. Or, pour l'homme, quelle est la pensée la plus pure, la plus limpide? C'est la connaissance mathématique. C'est donc dans la connaissance mathématique qu'on doit découvrir Dieu. Et il y a tout un passage par où il commente le prologue de Saint Jean. Au commencement était le Verbe. Le Verbe, c'est quoi? L'équation différentielle. La pensée mathématique dans sa plus grande pureté, dans sa plus grande limpidité. Vous voyez, la parenté avec Hegel, mais en même temps, on ramène Hegel à l'homme. J'allais dire le conditionnement particulier de la connaissance mathématique pour l'homme. Ensuite, William Huxley, 1887-1975, c'est l'évolutionnisme. C'est l'évolutionnisme le plus absolu. William Huxley a des passages très violents contre l'existence de Dieu, en montrant que toute la vie évolue. Donc si Dieu existe, il fait partie de l'évolution. Or, la conception de Dieu habituelle et traditionnelle, c'est que Dieu ne peut pas évoluer. Donc Dieu n'existe pas. Et tout se ramène à une relativité. Et puis alors le dernier, c'est Sartre. Il y en a d'autres, hein, mais je prends le dernier parce que c'est le dernier plus important. 1905-1980. C'est notre siècle. Sartre, l'être et le néant. Sartre, c'est l'exaltation de la négation. C'est le primat le plus absolu de la négation. Je crois que c'est ça qui est le point de vue le plus important. Ça. À ce point de vue-là, Sartre est extrêmement intéressant pour exprimer, je crois, ce qu'il y a de foncier dans la pensée moderne. Oui, moi je me suis posé la question. Qu'est-ce qui est le signe distinctif de la modernité au plan philosophique? C'est une question qu'on doit se poser. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est commun à travers tout cela. Or, chez les Grecs, on distingue toujours le grand problème philosophique de l'affirmation et de la négation. Et on voit que la négation est seconde par rapport à l'affirmation. C'est vrai. Normalement, c'est comme ça. Il faut affirmer quelque chose pour qu'on puisse nier. Ceci est, ceci n'est pas. La négation s'ajoute. Dans le langage, c'est très net. Ça, dans le langage, c'est extrêmement net. Le langage n'est qu'un signe de la pensée. Mais c'est un signe. Dans le langage, c'est très net que la négation s'ajoute. Plus complexe de dire ceci n'est pas que de dire ceci est. D'autre part, quand je dis ceci n'est pas, vous savez que les psychologues distinguent dans l'évolution du gosse un moment où il nie toujours, le moment du rejet, alors qu'au début, c'est l'affirmation. C'est très joli du reste de voir ça. Eh bien, je crois qu'à partir de Occam, c'est pour ça que je dis qu'Occam est vraiment la grande déviation. La négation est première. est moderne. C'est-à-dire le plus logique. C'est normal, il est français. Le plus logique de tous les modernes. Et il affirme ce primat absolu de la négation. Très peu de personnes ont lu L'être et le néant. Il faut vraiment avoir un désir de connaître ça. Je l'ai lu la plume à la main. Parce que je voulais absolument comprendre. Parce que si j'aurais des quantités d'histoires à raconter sur Sartre, je ne l'ai jamais rencontré. J'aurais aimé le rencontrer, mais je ne l'ai jamais rencontré. Étant à Fribourg, c'était plus difficile. C'est quelqu'un de très curieux. Vous voyez, les passages les plus importants dans L'être et le néant, c'est les passages sur la négation. Ils sont très intelligents. Vous comprenez que la subjectivité transcendantale de Kant, s'il y a un primat de la négation, il faut expliquer ce primat de la négation. C'est donc la subjectivité transcendantale. Je m'explique. Dans la négation, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que vous affirmez votre transcendance vis-à-vis de ce qui n'est pas. Vous existez en disant ceci n'est pas. Donc vous affirmez face au néant. Vous êtes comme Dieu. L'homme a le pouvoir de néantiser. Et en néantisant, il s'exalte. C'est pour ça que Sartre dit que la liberté sort de la néantisation. Et je comprends très bien. Quand je nie, je suis libre. Quand je dis oui, je donne la main. Donc, dès que je dis oui, je suis partisan. Oui, je prends parti. Oui, ceci est. C'est qu'à regarder dans toutes les discussions. La discussion existe quand il y a deux contraires. S'il y a quelqu'un qui dit « Oh non, ça n'existe pas », puis s'en va, il est en dehors. Il arrête la discussion. Pour Sartre, c'est très net. C'est par la négation que l'intelligence s'affirme le mieux. Au plan de vue de la subjectivité. C'est dans la négation que la subjectivité apparaît comme première. Donc c'est bien cet aspect de Kant, l'aspect de la subjectivité transcendantale. Vous devenez, en niant mesure, de la négation. C'est vous qui affirmez ça. C'est vous qui néantisez. Et en faisant ça, vous vous exaltez. Il y a une sorte d'exaltation de l'intelligence dans la négation. C'est pour ça que Sartre, évidemment, est athée. D'un athéisme particulier. D'un athéisme d'une logique absolue à partir du primat de la négation. Et d'une certaine manière, il clôt d'Occam à Sartre. Et à partir de là, la morale de situation, tout s'explique une fois que vous avez ça. Une fois que vous avez cette clé. Et vous voyez l'exaltation aussi de la liberté et de l'absolu de la liberté. La liberté devient la ligne de conduite de tout. Face à ces athéismes qui exaltent l'homme dans son pouvoir de nier, dans sa créativité, dans sa connaissance mathématique et dans la pureté de sa connaissance mathématique, dans ce refoulement affectif freudien, a de premier dans l'homme qui était caché à cause de Dieu, à cause de la religion, qui reconnaissait Dieu face à ces différentes formes d'athéisme. On voit très bien comment le problème se pose avec une beaucoup plus grande acuité pour le point de vue philosophique. Et si on pousse un peu la critique, on voit que c'est l'ontologisme de Occam, ontologisme d'un théologien, donc qui affirme Dieu, ontologisme qui, affirmant Dieu, aboutit à Hegel, l'identification de l'homme et de Dieu, et qui, à ce moment-là, appelle une réaction violente d'un ontologiste de gauche, où, à la place d'exalter Dieu, la connaissance qui s'unit à Dieu, on voit l'exaltation de la négation qui est au fond la victoire de l'intelligence et qui peut aller jusqu'à rejeter Dieu, néantiser Dieu, pour que l'homme retrouve son indépendance et son autonomie. Je crois que face à ces idéologies athées, on essaiera de les comprendre ce soir d'un point de vue théologique. Il faut redécouvrir une philosophie qui montre bien comment ce que l'homme connaît, l'intelligibilité que l'homme connaît des réalités et de lui-même, il faut redécouvrir comment la réalité et non pas la connaissance de l'homme et ce qui guide le philosophe, c'est la mesure de sa connaissance. Et c'est comme ça qu'il est vrai quand il est conforme à cette mesure. Et donc redécouvrir le jugement d'existence, ceci est. Je crois que ces diverses formes d'idéologie athée ont mûri, comprenez bien, l'entendement humain et l'ont exalté en lui montrant que c'est lui qui mesure tout. Et là, le progrès des sciences, qui ne sont plus dans l'exaltation et l'euphorie du premier moment scientifique, montre bien que les sciences, si fines, si intéressantes qu'elles soient, sont limitées. Et que la diversité même des sciences montre que la réalité dans son unité est vue sous des points de vue différents et qu'il faut respecter. Il faut donc redécouvrir une philosophie réaliste tout en maintenant la critique. Mais la critique est seconde et la philosophie réaliste me permet d'avoir un contact direct avec la réalité existante, avec moi-même en tant que j'existe. C'est pour cela que je crois que face à cette exaltation de l'anthropologie, il faut d'une part redécouvrir ce qui me permet de ne pas me laisser prendre par la séduction de l'ontologisme, mais il faut aussi regarder la personne humaine dans tous ses éléments et dans sa profondeur. Je crois que ce sont les deux aspects philosophie.